France Inter.
Et c'est l'heure du journal d'Alexis Morel. Bonjour Alexis.
Bonjour Simon, bonjour à tous. Ils ont un mois pour renverser la vapeur. Les macronistes en meeting hier soir à Paris pour battre le rappel des troupes avant les européennes du 9 juin. Le RN largement en tête des sondages. Gabriel Attal fait de ces élections un référendum pour ou contre l'Europe, vous l'entendrez. C'est une étroite zone ultra sensible entre Gaza et l'Égypte, le corridor de Philadelphie investi par des chars israéliens ces dernières heures. Curieusement, le Caire ne s'en alarme pas pour l'instant, on vous expliquera pourquoi. Dans ce journal aussi, les stylos à insuline, bien trop chers pour les diabétiques des pays pauvres. Le double pont, 8 mai, Ascension, les hébergements touristiques font le plein de réservations. Et en ce jour d'arrivée de la flamme olympique en France, le cinéma se met aussi dans l'ambiance des JO. L'esprit Coubertin en salle aujourd'hui.
Et justement, juste avant 7h50, le président du comité d'organisation de Paris 2024, Tony Estanguet sera l'invité de France Inter avec Alexandra Ben Saïd.
France Inter.
C'est la salle qui avait porté chance à Emmanuel Macron pendant sa campagne présidentielle de 2017.
Mais 7 ans plus tard, l'état d'esprit n'était pas vraiment le même hier soir à la Mutualité, 5e arrondissement de Paris, où la majorité organisait un grand meeting, près d'un mois, des élections européennes. Objectif, se relancer en urgence, tenter de combler ce gouffre qui sépare le camp présidentiel du RN dans les sondages. Alors appel à toutes les voitures, la tête de liste Valérie Ayé décrète la mobilisation générale, le Premier ministre en soutien. Pas forcément suffisant, Marie Mollet, pour rassurer les militants.
Dans la salle, au dernier rang, les militants ont cessé de scruter les sondages pour ne pas se faire de mal.
Combien ? C'est encore baissé ?
16. Ah là là.
Marinette croit percevoir un frémissement chez les électeurs sur le terrain.
Ils ont enfin entendu parler de Valérie Ayé, donc ils ne posent plus la question qui c'est celle-là. Hein ?
Mais les courbes plongent et elles ont eu raison des ambitions de Jean-Louis, engagé depuis 2017.
Déjà, si on reste en deuxième position, 17-18%, ça sera pas si mal.
Alors en guise de remontant pour les militants, Renaissance a poussé sur scène tout ce que la majorité compte de poids lourd ou presque, Édouard Philippe ou Elisabeth Borne.
Je suis très fière d'être en dernière position sur cette liste.
Et le clou du spectacle.
Nous lançons aujourd'hui le tournant de cette campagne.
Le Premier ministre Gabriel Attal, qui a traîné des pieds avant d'entrer en campagne, Emmanuel Macron forcé de lui demander publiquement de s'engager au maximum. Alors hier soir, message reçu.
Voulons-nous, au fond, être dans l'Europe ou en dehors de l'Europe? Être dedans ou dehors?
Discours offensif face au RN.
Après avoir été des europhobes assumés, ils émargent désormais au club des europhobes anonymes.
Il reste 4 semaines, dit-il, pour déjouer tous les scénarios écrits d'avance.
Sur 100 électeurs macronistes susceptibles de basculer du côté du socialiste Raphaël Glucksmann pour ces européennes, 60 sont des femmes, selon une étude de la Fondation Jean Jaurès. Ce n'est donc peut-être pas un hasard si Emmanuel Macron a choisi ce matin le magazine Elle pour s'exprimer, notamment sur les violences sexuelles, revenir sur ses propos controversés sur Gérard Depardieu, qui, je cite, rend fière la France. Le chef de l'État tente de rectifier le tir sans se renier. Aucune complaisance, assure-t-il. Sa priorité est bien à la protection des victimes. Il dit avoir confiance dans la parole des femmes, mais la volonté aussi de respecter la présomption d'innocence. Dans cette interview, Emmanuel Macron s'adresse aussi aux mères célibataires. Il faut ouvrir le débat sur un devoir de visite obligatoire pour les pères absents auprès des enfants. Une bonne nouvelle pour Patricia Augustin de la Fédération syndicale des familles monoparentales.
Ça met en balance toutes les stigmatisations qu'on a entendues ces derniers temps. On a quand même lors des émeutes, on a quand même entendu que c'était la faute des mères qui laissaient leurs enfants de 10 ans dehors, alors que nous on dit que les familles monoparentales surinvestissent auprès de leurs enfants. Donc en apportant la problématique du père, ça déculpabilise un peu les mères et ça remet un peu les pendules à l'heure. C'est trop facile effectivement d'avoir des enfants et puis de leur tourner le dos, de faire le mort. On peut pas tout mettre, toute la responsabilité sur le dos de la mère et que la présence des deux parents limite les risques, ça a un impact important. maintenant sur l'enfant lui-même.
Patricia Augustin de la Fédération des familles monoparentales.
Lui a quitté la France sans régler ses contentieux avec les Européens.
C'est en Serbie que Xi Jinping poursuit aujourd'hui sa tournée européenne, qui l'emmènera aussi en Hongrie. Deux étapes lourdes de symboles dans ces pays bien plus conciliants avec Moscou et méfiants vis-à-vis de l'Occident. Le président chinois s'arrête d'ailleurs aujourd'hui à Belgrade, 25 ans jour pour jour après le bombardement de l'ambassade de Chine par l'OTAN. On apprend ce matin que les États-Unis ont suspendu la semaine dernière une livraison de bombes à Israël. Inquiet, dit le Pentagone, pour les civils de Rafah dans la bande de Gaza. Rafah que les chars israéliens investissent depuis 24 heures maintenant. Ils sont aussi entrés hier dans une zone sensible car symbolique. Le corridor qui sépare l'enclave palestinienne de l'Égypte, une zone tampon sous contrôle du Caire. Sur le papier, cela pourrait envenimer encore davantage la situation. Mais à ce stade, Léonie Lebrun, les autorités égyptiennes ne réagissent pas.
L'entrée de chars israéliens dans le corridor semblait encore constituer une ligne rouge pour les autorités égyptiennes en janvier dernier. Un haut responsable égyptien prévenait alors « Si Israël réinvestit la zone, cela pourrait menacer les accords de paix de Camp David scellés entre l'État hébreu et l'Égypte en 1979. » Mais aujourd'hui, alors que tanks et soldats israéliens évoluent librement dans le corridor, l'Égypte rétropédale. Texte du traité de paix de 1979 à l'appui, une source proche du gouvernement assure que l'arrivée de troupes israéliennes ne constitue pas à elle seule une violation des accords de paix et précise qu'il existe une limite au nombre de soldats qu'Israël peut envoyer dans cette zone. Si la limite était franchie, mieux vaut ne pas imaginer ce qui pourrait se passer, menace cette même source, sans être toutefois capable de mentionner le nombre de soldats de Tsahal qui se trouvent en ce moment dans le corridor. Précisons que l'Égypte n'a pas de troupes au sol dans ce secteur. En charge de la surveillance du corridor depuis 2007, elle dispose seulement de tours de guet et d'une multitude de caméras sur place.
Léonie Lebrun en Égypte, le Caire où toutes les parties au conflit ont accepté toutefois de reprendre les négociations sur un projet de trêve à Gaza. Et à Paris, c'est au cri de Rafah, on est avec toi, qu'une centaine de manifestants pro-palestiniens ont à nouveau tenté hier soir d'occuper un amphithéâtre de la Sorbonne. La police est rapidement intervenue pour les déloger.
60% des malades du diabète les utilisent.
Les indispensables stylos à insuline, beaucoup plus faciles à manipuler qu'une seringue, c'est devenu un geste habituel pour les malades, en tout cas dans les pays riches. Car ailleurs dans le monde, les prix de ces stylos restent souvent bien trop élevés. D'où cet appel ce matin de Médecins Sans Frontières. Les laboratoires pharmaceutiques doivent absolument faire un effort, selon l'ONG et son représentant en Afrique du Sud, Thomas Hellman.
Nos patients, surtout en Afrique et l'Asie, n'ont pas accès à un médicament insuline qui sauve la vie, qui devrait être accessible à un prix juste pour ces populations. Et notre étude nous montre que les prix sont beaucoup plus élevés que le prix de fabrication des médicaments. Dans notre étude, on montre que le coût de fabrication d'un stylo est autour de 1,30 $, incluant un profit. Mais le coût vendu aux États-Unis est presque 30 $. En Inde, c'est 8 $. En Afrique du Sud, c'est 3 $. Et ça, c'est un profit inacceptable. Les grands fabricants, surtout Eli Lilly, Novo Nordisk, Sanofi, doivent diminuer leur prix. Ils doivent offrir un prix correct en sachant que leurs profits sont beaucoup plus élevés.
Thomas Hellman de Médecins Sans Frontières, il répondait à Victor Dolande.
Il est 7h38 et vous écoutez peut-être France Inter ce matin sur la route.
Mais pour les plus chanceux, déjà en week-end, un mercredi, double pont, 8 mai, Ascension, complété par une RTT vendredi, le tour est joué. En plus, ça s'annonce ensoleillé. À La Rochelle, hôtels, gîtes et maisons d'hôtes font déjà le plein, Delphine Marion Boule.
À quelques pas du Vieux-Port à peine, Olivier Durand nous ouvre la porte de sa maison d'hôtes.
C'est un ancien hôtel particulier, début 18e, elle date de 1705, ancienne maison d'armateurs. Ici, on est vraiment dans le quartier de tous ces armateurs qui avaient des flottilles de bateaux au 18e et qui ont fait fortune par le commerce triangulaire. Donc en fait, ici, on est dans la chambre Stone, donc dans les temps de...
Dans les chambres, les lits sont faits, les salles de bain sont prêtes, il n'y a plus qu'à poser sa valise. Il faut dire que les clients vont arriver d'une minute à l'autre, ou presque.
Et là, on est sur un gros week-end, puisque je suis complet à partir de ce soir jusqu'à dimanche. J'ai des gens de Sydney, en Australie, j'ai des Allemands, Et là, j'attends trois couples de Français qui vont arriver à 17h, 20h et 23h. Dernier train de Paris.
Complet, ou presque aussi, pour les 800 hébergements proposés par Gîtes de France en Charente-Maritime. Pour leur directeur, Davy Passard, les touristes ont clairement optimisé la pause des congés pour tout miser sur les ponts du mois de mai.
On est sur un taux d'occupation à quasiment 95-96%, ce qui, par rapport à la même période l'année dernière, réalise une progression de 30%. C'est plutôt une bonne semaine pour nous.
Côté hôtel, enfin, le taux de remplissage est de 85% et le syndicat de la profession, l'UMI, a bon espoir d'afficher complet aussi d'ici la fin de la semaine.
Reportage France Bleu La Rochelle. Allez, encore quelques milles nautiques à bord du Bel Aim et la flamme olympique sera sur le sol français. Le magnifique trois-mâts approche de la rade de Marseille où il entamera sa parade dès la fin de matinée avant d'accoster entre 19 et 20 heures dans le Vieux-Port où Florent Manaudou sera le premier porteur de la torche dans l'Hexagone. 6000 membres des forces de l'ordre mobilisés aujourd'hui à Marseille car la soirée s'annonce longue, grand concert dans la foulée. Dès demain, la flamme entamera son parcours de 12 000 km par une déambulation dans Marseille où nous serons dans le journal de 8 heures. Et pour vivre les JO avant l'heure, rendez-vous aussi au cinéma avec la sortie aujourd'hui de L'Esprit Coubertin, Benjamin Voisin dans le rôle principal en spécialiste du tir sportif. Une comédie régressive, Corinne Pellissier est plutôt réussie.
Comment briller sur un plateau télé, faire rêver la France quand on est maniaque, mal dans sa peau et qu'on incarne la dernière chance de médaille dans un sport dont tout le monde se fout. On est loin, c'est sûr, dans ce premier film du scénario imaginé pour les athlètes tricolores par le Comité Olympique de Paris.
Il reste une petite semaine d'Olympiade. Si ça continue comme ça, on risque de finir nos Jeux à zéro médaille d'or.
Avec Jérémy Saint, ce serait plutôt Bienvenue chez les losers. Une comédie folle, remplie de mauvais esprits, autour d'un personnage décalé, pas tellement animé, par l'esprit Coubertin.
On vient, on gagne, on s'en va.
Un rôle en or pour Benjamin Voisin, magistral dans la peau de Paul Bosquet, disqualifié il y a 4 ans à cause du Covid, avant cela à Rio pour avoir contracté la mononucléose. Une sorte de Gaston Lagaffe à l'humour très américain, très proche des films de Judd Apatow. Affublé dans le film d'une super coach, Emmanuel Berco, tout aussi déjanté, et confronté à tous les obstacles du compagnon de chambre un peu trop bruyant, jusqu'à l'invasion de punaises de lit. Résultat jubilatoire, rempli de gags et de situations gênantes autour du patriotisme à la française, indispensable pour se mettre dans l'ambiance des prochains Jeux de Paris.
C'est quoi l'esprit Coubertin ?
L'Esprit Coubertin, premier film de Jérémy Saint, c'est en salle aujourd'hui. L'important, c'est de participer. Le PSG peut se dire ça ce matin pour se consoler. Battu par Dortmund hier soir 1-0 au Parc des Princes, les Parisiens ne verront pas la finale de la Ligue des Champions de foot. Que de poteaux touchés hier soir, mais aucun but marqué par l'équipe de la capitale.
6 poteaux sur l'ensemble des deux matchs. Merci Alexis Morel. Les éditos politiques et économiques à suivre.